guise de Lyon, donc j'ai pu venir. Merci vraiment de m'écouter, et je pense en particulier à ceux qui ont regardé le match hier soir. Je sais que ça vous coûte d'être ici aujourd'hui. Et voilà, c'est un vrai plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Je vais vous commencer la prédication par vous parler un peu de psychologie. En 2002, le psychologue américain Jonathan Chay, qui est spécialiste des syndromes post-traumatiques, s'est penché sur la question des traumatismes, mais des traumatismes que pouvaient subir non pas les victimes d'abus, mais ceux qui les provoquent, les coupables. Cette démarche n'était pas faite pour négliger la souffrance des victimes, mais plutôt pour se poser la question de la culpabilité que pouvaient sentir les personnes qui font eux-mêmes le mal. Et il a trouvé que ces personnes, que des personnes en position de pouvoir, qui décidaient de prendre des décisions moralement mauvaises, que ce soit des militaires qui commettent des crimes de guerre ou des agresseurs, pouvaient subir eux aussi une forme de syndrome post-traumatique. Il va appeler cela les blessures morales. Et cela se traduit souvent par un profond sentiment de trahison de la confiance que nous avons en nous-mêmes, ainsi que le ressenti d'émotions négatives, persistantes et durables, de la culpabilité, de la honte, du mépris, de la colère, qui découlent de la trahison, de la violation ou de la suppression de valeurs morales. Voilà, je ne vous dis pas cela pour rien, et je vous dis cela parce qu'en fait, nous vivons dans une société qui est obsédée par la morale et le jugement. Nous pouvons penser par exemple à la fameuse cancel culture qu'on entend parler souvent, où des personnes, la société juge des personnes par rapport à des actions qu'ils ont faites. En tant qu'humains, nous voulons naturellement être comme Adam et Ève, prendre la place de Dieu, décider pour nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Nous voulons tous être juges. Mais cela a créé aussi une situation parfois assez embêtante, parce qu'il y a souvent plus de moyens de rédemption possibles, une fois que c'est nous qui sont coupables de ce mal, quand c'est nous qui commettons des actions objectivement mauvaises. Je dis cela pour toute l'Église, mais en particulier pour toi Samuel ce matin aussi, notre baptisé du jour. Même après notre conversion, nous ne devenons pas des humains parfaits. Même après avoir accepté Jésus dans notre vie, nous ne devenons pas tout de suite des saints. Non, nous commettons toujours des erreurs. Nous décevons toujours Dieu par nos actions, par nos choix. Et nous vivons toujours une forme de culpabilité par rapport à notre passé, n'est-ce pas? Et la question qu'on peut se poser donc est: comment est-ce que Dieu nous permet de répondre à son appel pour nous alors qu'il sait très bien que nous allons forcément faire des erreurs? Comment faire quand nous allons forcément désobéir ou passer à côté de l'appel que Dieu a pour nous? Et surtout, comment faire pour nous, en tant qu'humains, de vivre avec la culpabilité et la honte que nous ressentons et qui nous consume quand nous faisons le mal? Voilà, dans le texte que nous allons lire ce matin, nous concentrerons sur le personnage de Pierre. Vous savez bien, Pierre, il y a eu une histoire connue où il a renié Jésus trois fois de suite le soir de sa crucifixion. Et notre histoire vient après ce moment-là, où on retrouve un Pierre qui a rejeté Jésus, un Pierre qui est coupable d'avoir trahi son maître, Pierre qui est passé complètement à côté de la mission que Jésus lui avait donnée. Et il a essayé de sauver sa propre peau en laissant Jésus derrière lui. Et donc voilà, on voit après la mort de Jésus à la croix, les disciples sont laissés sans leur maître et par conséquent sans plus personne pour leur donner d'instructions. Et la question que pouvaient se poser les disciples, c'est de savoir, est-ce que la mission que Jésus leur avait donnée, la mission à laquelle ils avaient été envoyés, était toujours d'actualité aujourd'hui, après que Jésus soit mort? Et donc, on va voir que la réaction de Pierre, ainsi que certains de nos disciples, c'est de repartir à leur vie passée, d'aller à la pêche. Et c'était quelque part pour eux l'option de facilité. Mais c'est là que Jésus, ressuscité, se révèle à eux. Et après un miracle de pêche miraculeuse, Jésus va prendre un temps de discussion avec Pierre. Et c'est là le contexte de notre texte que je vais lire tout de suite. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean 21. Nous lirons les versets 2 et 3 et puis nous sauterons au verset 15 et nous lirons jusqu'au verset 22. Voilà. Jean 21, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Il répondit, « Seigneur, oui, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre attachera ta ceinture et tu te mèneras où tu ne voudras pas aller. » Et par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit le disciple que Jésus aimait, qui les suivait. C'est celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Quand Pierre le vit, il dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ? Toi, Pierre, suis-moi. » Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, oui, merci pour ta parole, merci pour ce texte, merci pour cet enseignement. Merci de nous rappeler à quel point tu nous aimes, à quel point tu nous veux, nous, même si nous te trahissons, même si nous commettons des erreurs, même si nous passons à côté de ce que tu veux pour nous. Et oui, apprends-nous aujourd'hui la leçon, le message que tu veux qu'on apprenne. Seigneur, aide-nous à comprendre d'une manière plus profonde ton amour. Seigneur, oui, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, dans ce texte que nous suivons, nous voyons donc cette première discussion entre Pierre et Jésus depuis la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation en tant qu'enfant ou peut-être en tant qu'adulte. Vous avez fait une erreur ou peut-être offensé quelqu'un et vous savez très bien que la prochaine discussion que vous allez avoir avec cette personne ne va pas être sympathique. Elle va faire du mal à notre ego. On n'a pas envie d'avoir cette discussion parce qu'on sait que les mots qui vont être dits face à nous vont être des mots durs, des mots qui vont nous blesser peut-être. Et dans ces moments-là, nous sommes aussi face à nous-mêmes, face à notre propre ego, parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas les personnes que nous voulons être. Nous commettons des erreurs, nous ratons la cible. Et je pense que Pierre vivait cela à ce moment-là. Il était conscient de son erreur, il était conscient qu'il avait raté sa mission de disciple. Et là, le voici face à Jésus, face à celui qu'il avait renié trois fois. Et ce texte, donc, nous montre un Pierre qui est déboussolé. Lui, qui était d'habitude si sûr de lui, si fonceur, si prêt à tout pour servir Jésus, il se retrouve à retourner à sa vie passée de pêcheur, de poisson. Le texte ne nous montre pas la raison explicite, la raison de pourquoi Pierre retourne à cette vie de pêcheur, mais nous pouvons assez facilement imaginer les raisons. Cette déception qu'il pouvait sentir peut-être d'avoir fait partie d'un grand mouvement pour ensuite le voir s'écrouler en une nuit, de se retrouver seul et mis à l'écart, à la fois par sa famille, parce que peut-être parce qu'il pouvait penser qu'il avait suivi un blasphémateur, qui était condamné à mort, mais nous pouvons aussi imaginer qu'il a vécu une forme de rejet peut-être par les disciples, et peut-être qu'il pouvait penser qu'il vivait un rejet de Jésus, parce qu'il a renié le Christ au moment où c'était le plus important de rester à ses côtés. Et donc, Pierre choisit de retourner à sa vie passée, choisit la facilité. Et pour Pierre, la question qui se pose est plus profonde aussi. Qui suis-je ? Qui suis-je maintenant que j'ai commis l'irréparable ? Maintenant que j'ai abandonné le Seigneur de l'univers, au moment où c'était le plus critique, au moment où c'était le plus important ? Qui suis-je alors que moi, qui me croyais si fidèle à mon Seigneur, je me suis enfui au premier moment où c'était difficile ? Et je pense que cette culpabilité que vit Pierre n'est pas quelque chose de propre à lui. Je pense que nous ressentons tous, d'une manière ou d'une autre, une forme de culpabilité dans nos cœurs pour des actions ou inactions dans notre passé, des choses que nous regrettons. Cette culpabilité peut-être de n'avoir pas été un bon parent, d'avoir pas été un bon enfant. Cette culpabilité peut-être d'avoir dit des choses, d'avoir dévoilé des secrets, d'avoir brisé des relations que nous ne pouvons plus jamais réparer. Ça peut être aussi parce que nous avons commis un péché si irréparable, un péché si sale, si moche, que nous nous croyons impardonnable. Impardonnable aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Oui, en tant qu'humain, notre condition de péché nous oblige à nous regarder en face et de nous rendre compte que nous ne sommes pas des dieux. Nous commettons le mal, oui, nous faisons des erreurs. Nous ne sommes pas les maîtres de notre propre univers. Nous devons voir que nous sommes seulement des créatures touchées par le péché. Et si ma prédication s'arrêtait ici, ça serait une très mauvaise nouvelle. Hein ? Et c'est pour ça que Jésus prend ce temps avec Pierre. Cette erreur ou péché, elle n'est pas une fin en soi dans leur relation. Jésus revient vers Pierre. Et comme nous le verrons, il lui montre que cette faute n'est pas la fin pour lui. Le texte, ensuite, nous montre cette discussion entre Pierre et Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte ne nous dit pas si cette discussion était faite à l'écart des disciples, ou c'était juste Jésus et Pierre entre quatre yeux, ou est-ce que les disciples étaient présents. Et j'avoue, personnellement, que je préfère cette deuxième option, même si, encore une fois, la Bible ne le dit pas explicitement. Là où Pierre a renié Jésus d'une manière publique, Jésus vient vers lui d'une manière publique aussi, pour le pardonner, d'une manière publique. Jésus pose à ce moment-là une première question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Jésus, à ce moment-là, demande à Pierre si son amour pour lui est plus grand que son amour qu'il a pour les autres disciples. Et cette question fait écho, encore une fois, à la trahison que Pierre a faite, où il a choisi de protéger sa propre vie, et peut-être, on peut l'imaginer, celle des autres disciples, plutôt que de prêter allégeance à Jésus. Et si nous nous mettons à la place de Pierre, peut-être simple de voir à quel point cette demande de Jésus peut faire mal. Encore une fois, Jésus oblige à Pierre de faire face à ses actions, de prendre conscience de la gravité de ses actes. En posant cette première question, Jésus pousse Pierre à verbaliser qui a vraiment la plus grande place dans son cœur. Je pense que cela est bon pour nous aussi de prendre conscience de ce que Pierre a dû faire ici. Et peut-être nous aussi de nous poser la même question. Qu'est-ce qui est le moteur de mon cœur ? Qu'est-ce qui est le moteur de ma vie ? Pourquoi est-ce que je, moi, fais les choses que je fais ? Est-ce que je tiens, par exemple, à ma réputation personnelle, au point où je suis prêt à rabaisser les autres pour m'élever ? Est-ce que je poursuis tellement l'argent que je pense que si j'en ai assez, cela me permettrait d'avoir un contrôle sur ma propre vie ? Est-ce que j'ai tellement envie que les personnes autour de moi me voient comme quelqu'un de bien, que j'ai peur de dire la vérité ou de prendre le bon choix, quand cela pourrait me faire perdre en estime ? Toutes ces questions touchent à quelque chose de profond en nous. Nous cherchons tellement souvent à protéger quelque chose par nos actions, quelque chose que nous ne voyons peut-être pas. Et ce que Jésus demande à Pierre ici, c'est de nommer cela et d'en prendre conscience. Oui, pour Pierre, c'était la peur, et non pas son amour pour Jésus, qui prend la première place dans son cœur à ce moment-là. Mais cette question de Jésus, c'est aussi un grand geste de miséricorde. Pour Jésus, cette trahison de Pierre, elle était réelle, mais elle n'est pas synonyme d'une rupture totale dans leur relation. La réponse humaine, ça aurait été de dire que Pierre n'était alors plus digne de confiance, qu'il est bon à jeter, et l'exclusion de Pierre du groupe des disciples aurait été complètement justifiée et légitime. Mais le but de ces questions de Jésus n'était pas de critiquer Pierre, de le rabaisser, de le pointer du doigt et de lui dire qu'il était nul. Non. Ce n'était pas le fait de renier Jésus qui était en cause, mais bien plus profondément, c'était l'amour que Pierre porte pour son maître, que Jésus touche du doigt par ses questions. Et ce dialogue, donc, nous montre quelque chose de très beau sur la manière dont Jésus traite le péché. Notre péché ne disparaît pas. Ses conséquences existent toujours. Et nous, les autres et le monde autour de nous, est toujours marqué par nos fautes. Il souffre encore. Le mal est fait, mais la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, elle ne change pas. Dieu nous aime. Dieu veut quand même une relation avec nous. Dieu veut que nous soyons libres, vraiment libres. Mais pour être libre, il devient alors nécessaire de se tourner de notre vie passée, de changer de chemin et vivre une nouvelle vie plus riche, de nous rendre compte que nous ne sommes pas parfaits, que quelque chose dysfonctionne au fond de nous et qu'il faut que nous nous rendions compte plutôt de dire que c'est normal, qu'on ne va pas changer et que de faire comme si de rien n'était. Parce que oui, c'est bien plus simple de faire ça que de mettre le doigt dessus et de chercher à vraiment changer. Et c'est cela donc que Jésus fait avec Pierre. Il ne nie pas le mal, il ne nie pas le fait qu'il a commis une mauvaise action. Jésus ne dit pas par exemple « T'inquiète pas Pierre, t'inquiète pas, c'est pas grave. » Il laisse Pierre lutter avec sa blessure morale, mais lui témoigne de son amour et lui donne aussi un nouvel appel. Pierre, qui voulait tant être quelqu'un d'autodéterminé, quelqu'un qui choisissait sa propre vie, un fonceur, un têtu, accepte à ce moment-là de pleinement donner sa vie à Jésus. La vie de Pierre, à partir de ce moment-là, n'était plus la sienne, mais elle servirait le royaume de Dieu. Pierre est nommé le berger, mais pas le berger de ses propres brebis. Non, le berger des brebis de Dieu. Pierre ne vivra pas une vie indépendante où il fera ce qu'il veut jusqu'à la mort, mais il acceptera de mourir en martyr, en acceptant de perdre le contrôle pour laisser toute la place à Dieu et à son royaume. Dieu et Jésus donnent à Pierre un nouvel appel à ce moment-là. Pierre, qui était un disciple raté, qui était vu comme un traître, se voit maintenant être réinstitué. Le Fils de Dieu, lui-même, le veut dans son équipe. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Jésus lui donne une place dans son peuple. Et nous ? La question maintenant, c'est pour nous. Est-ce que nous nous rendons compte de cela dans nos propres vies ? J'ai l'impression que nous pouvons tous facilement nous sentir comme des pierres, des êtres humains ratés, des croyants peut-être qui déçoivent Dieu. Que nous soyons chrétiens ou non, nous sommes conscients que nous ne sommes pas les êtres humains que nous voulons être. Que ce soit par l'apparence, par nos actes, par notre personnalité, nous ne sommes pas des humains parfaits. Ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, nous nous rendons compte aussi que plus on avance dans la foi, plus on se rend compte aussi de la façon dont on n'est aussi pas des bonnes personnes. On commet le mal, on fait du mal aux autres, on fait des mauvaises actions. Nous rendons compte à quel point nous avons vraiment besoin d'un sauveur. Être chrétien, c'est comprendre que tout homme a quelque chose de brisé en lui, que quelque chose ne fonctionne pas, ne fonctionne vraiment pas dans nos cœurs. La vie du chrétien, c'est en grande partie donc faire face à ses blessures morales. Nous ne sommes pas les personnes parfaites que nous voulons être. Nous commettons le mal et nous faisons des erreurs. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais la seule façon de faire face à ces blessures morales, c'est de laisser Jésus faire ce qu'il a fait pour Pierre. Oui, nous sommes ratés. Oui, en effet, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Mais Jésus nous veut quand même. Jésus nous aime quand même. Oui, comme Pierre, nous passons complètement à côté de l'appel que Jésus a pour nous. Mais Jésus, comme Pierre, nous demande aussi de le suivre quand même. Oui, nous faisons continuellement des erreurs, mais Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun d'entre nous ici. Aucun d'entre nous ne méritons ce cadeau, mais il est offert à nous tous gratuitement et gracieusement. Et Jésus, en personne, nous appelle par notre propre nom. Pour nous aujourd'hui, il faut donc nous poser cette question. À quoi, pour nous, va ressembler notre manière de répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que nous fuirons parce que nous avons peur de l'appel, de ce que ça va changer dans nos vies, de ce qu'on va devoir changer? Est-ce que nous ferons comme Pierre et nous abandonnerons la mission à cause de la culpabilité et nous retournerons à notre vie passée? Ou est-ce que comme Pierre, dans ce texte aussi, après la discussion avec Jésus, nous serons prêts à remettre notre vie à Jésus et de remettre notre Christ à la première place dans nos cœurs? En conclusion de la prédication, ce qui est essentiel de retenir dans ce texte, c'est vraiment la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. Un amour qui n'est pas perdu quand nous commettons le mal. Un amour énorme, tellement énorme qu'il nous appelle pour participer à sa mission sur terre. Une mission qui est propre à chacun d'entre nous. Et ça, c'est si beau. En introduction, nous avons parlé de la difficulté que nous pouvons avoir parfois de faire face à nos propres échecs, de faire face à nos propres erreurs, la culpabilité qui vient très souvent avec notre condition humaine. À quel point nous passons à côté de notre idéal que nous pouvons avoir pour nous-mêmes. Mais malgré tout cela, nous croyons que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il est devenu un être humain, qu'il est mort à la croix pour nous délivrer de notre propre péché. Un amour gratuit. Un Dieu parfait qui n'a pas peur de travailler avec des êtres humains imparfaits. Un Dieu qui nous appelle, chacun d'entre nous, par notre propre nom, et nous donne à chacun d'entre nous une mission. Oui, Dieu lance un appel à chacun d'entre nous ce matin. Que nous soyons chrétiens ou non, que nous ayons passé une vie difficile ou non, que nous passons en ce moment une période particulièrement douloureuse, ou que notre vie en ce moment n'est que bonheur, Dieu nous appelle. Et répondre à son appel sera toujours la meilleure chose à faire pour nous et pour notre vie. Peut-être que certains d'entre vous vous posez la question suivante. Je ne connais pas mon appel. Comment faire pour écouter Dieu et savoir à quoi il m'appelle et ce qu'il veut pour ma vie? Et cela, c'est une très bonne question. La première chose, c'est qu'il est essentiel, tout simplement, de l'écouter, de passer du temps avec lui dans la prière, dans l'écoute, dans la lecture de la Bible. Mais ça passe aussi par la vie en communauté, de grandir ensemble avec les frères et sœurs, de servir, et d'écouter ensemble la parole de Dieu, de louer le Seigneur ensemble, en voyant des exemples autour de nous. Je voudrais finir la prédication en disant que si ce que certains d'entre vous ont entendu pendant ce culte vous a fait vibrer, vous a fait comprendre Dieu d'une manière différente, je vous invite à prendre ce temps maintenant pour justement creuser cela. Si tu sens que Dieu souhaite te parler, je t'encourage à prendre ce temps de silence qui va suivre pour peut-être l'écouter. Pour lui poser la question, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin ? Dieu, parle-moi. » Oui, Dieu nous parle de différentes manières. Que nous soyons chrétiens ou non, Dieu souhaite parler à chacun d'entre nous et souhaite que chacun d'entre nous répondions à son appel. Oui, soyons donc à l'écoute de ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui. Cherchons à suivre ses voies à travers tout ce que nous faisons et que nos vies deviennent de vrais témoignages autour de nous de l'amour que Dieu a pour nous et de ce don d'amour qu'il a pour nos vies. Amen. Je vous invite à prendre